Séchons nos larmes.
Ce matin-là, la population lyonnaise fut privée de légumes. Les charrois des maraîchers avaient été retenus hors des murs et les ménagères clabaudaient devant les marchés vides. Le pont qui franchissait la Saône était barré par la troupe. Si l'on ne pouvait pas entrer dans Lyon, on ne pouvait pas non plus en sortir. Marchands italiens, voyageurs, moines ambulants, renforcés par les badauds et les désœuvrés, s'aggloméraient autour des portes et réclamaient des explications. La garde, invariablement, répondait à toute demande « Ordre du comte de Poitiers », avec cet air distant, important que prennent les agents de l'autorité lorsqu'ils ont à appliquer une mesure dont ils ignorent eux-mêmes la raison. « Mais j'ai ma fille malade à Fourvière !»« Ma grange de Saint-Just a brûlé hier à la Vépraie !»« Le bailli de Villefranche va me faire saisir si je ne lui porte point ma taille ce jour-ci !» criaient les gens. « Ordre du comte de Poitiers !» Et quand la presse devenait un peu forte, les sergents royaux commençaient à lever leur masse. En ville circulaient d'étranges rumeurs. Les uns assuraient qu'il y allait avoir la guerre. Mais avec qui, nul ne pouvait le dire. D'autres affirmaient qu'une émeute sanglante s'était produite pendant la nuit près du couvent des Augustins entre les hommes du roi et les gens des cardinaux italiens. On avait entendu passer des chevaux, on citait même le nombre des morts. Mais du côté des Augustins, tout était calme. L'archevêque Pierre de Savoie était très inquiet, se demandant quel coup de force s'apprêtait pour le contraindre probablement d'abandonner au profit de l'archevêque de Sens, le primatiat des Gaules, seule prérogative qu'il ait pu conserver lors du rattachement de Lyon à la couronne en 1312. Il avait envoyé l'un de ses chanoines aux nouvelles, mais le chanoine s'était heurté chez le comte de Poitiers à un écuyer très courtois et muet, et l'archevêque s'attendait à recevoir un ultimatum. Chez les cardinaux, logés dans les divers établissements religieux, l'angoisse n'était pas moindre et tournait même à l'affolement. Ils gardaient en mémoire l'affaire de Carpentras. Mais cette fois, comment fuir? Des émissaires couraient, des Augustins aux Cordeliers, des Jacobins aux Chartreux. Le cardinal Caetani avait dépêché son homme à tout faire, l'abbé Pierre, chez Napoléon Orsini, chez Alberti de Prato, chez Flisco, le seul espagnol, afin de dire à ses prélats « Voyez, vous vous êtes laissé séduire par le comte de Poitiers. Il nous avait juré de ne point nous molester et que nous n'aurions même pas à entrer en clôture pour voter, que nous serions tout à fait libres. Et maintenant, il nous enferme dans Lyon. » Dehaize lui-même reçut la visite de deux de ses collègues provençaux, le cardinal de Mandagou et Béranger Frédol, l'aîné. Mais Dehaize feignit de sortir de ses travaux savants et de n'être au courant de rien. Pendant ce temps, dans une cellule proche de son appartement, Guccio Baglione y dormait comme une pierre, hors d'état de songer seulement qu'il pouvait être à l'origine d'une pareille panique. Depuis une heure, le consul Varret et trois de ses collègues venus pour exiger des explications au nom du syndical de la ville piétinaient dans l'antichambre du comte de Poitiers. Celui-ci siégeait à huis clos avec les membres de son entourage et les grands officiers qui faisaient partie de sa mission. Enfin, les tentures s'écartèrent et le comte de Poitiers parut, suivi de ses conseillers. Tous avaient la mine grave.